à toutes et à tous. Bienvenue à Odeur Radio. Pour commencer, je me présente. Je suis Tiang et je ne suis pas seule dans le plateau. Je suis accompagnée de Laetitia, Ulasan, Raymond, San, Mei, Will, Siaka, Antoinette, Fizan et Shafkat. Bonjour à vous.
Bonjour.
Bonjour.
Alors, comme vous savez, chaque mois, on présente une émission réalisée dans le cadre du projet Onde du Vivre Ensemble, cofinancé par le Fonds européen d'intégration. Au dernier trimestre, notre thème, c'était liberté, égalité, fraternité. Et le nouvel thème de ce trimestre, c'est la culture. Maintenant, on passe au sommaire de l'émission. La première partie, c'est les codes sociaux. La deuxième partie, c'est la francophonie. La troisième partie, c'est les politiciens. La dernière partie, c'est la culture. D'abord, on commence par Raymond avec sa présentation des façons de dire bonjour.
Bonjour. Bonjour est un mot commun dans toutes les cultures. En Chine, en mandarin, ça se dit ni hao. En espagnol, buenos días. En vietnamien, xin chao. En diola, ni saroma. En japonais, konnichiwa. En arabe, salam aleikum. En italien, ciao. On se focalise maintenant sur les bonjours de nos quatre pays respectifs, le Vietnam, le Chili, la Chine et la Côte d'Ivoire. À chaque pays correspondent des mots différents pour dire bonjour, mais aussi des gestes différents. Il nous semble qu'un geste international est de se serrer la main, mais chaque pays a sa particularité. Commençons par la France. Lors d'une rencontre amicale, généralement, on se fait la bise et on se serre la main. Par contre, au Vietnam, les gens se courbent la tête pour marquer le respect. En Chine, les gens se serrent la main. Au Chili, il faut se regarder dans les yeux en se saluant. Dans le cas contraire, on peut considérer cela comme une offense. Avec les dames et les personnes de la famille, il faut faire une avise. Dans la culture d'Aïla, en Côte d'Ivoire, nous nous serrons la main en se tenant les coudes. Nous pouvons donc constater qu'il y a plusieurs manières d'interpréter des signes et des gestes selon les pays où on vit.
Merci Raymond. Alors Chan, qu'est-ce que tu penses des codes sociaux?
Merci Chan. Revenons à nos bonjours. Le mot bonjour est donc un moyen important de cohésion sociale. Lorsqu'on dit bonjour, nous nous rapprochons pour nous serrer la main. Et inconsciemment, nous faisons disparaître une barrière invisible que nous sépare. En France, il est possible de dire bonjour à des personnes dans la rue ou des lieux avec peu de personnes. Mais en Chine, comme il y a une grande population, il y a du monde partout, donc on n'a pas l'habitude de dire bonjour aux uns et aux autres. Mais ces codes sociaux vont dépendre de la côte géographique. Le rapport anonyme ou non va dépendre de la taille plus ou moins grande d'un lieu, d'une ville. Pourtant, en Côte d'Ivoire, il est très important de dire bonjour. Si tu dis pas bonjour, c'est une offense. Quelqu'un peut même se plaindre. Si tu ne salues pas quelqu'un et que tu as un service à lui demander, tu peux oublier. C'est une marque de respect. En Chine, on dit pardon moins facilement. Ce n'est que si on heurtait quelqu'un brutalement que l'on va s'excuser. Monsieur Fazani, directeur de l'Association du lien interculturel, familial et social, nous a d'ailleurs expliqué que le fait de saluer est un acte de reconnaissance et que l'on dit existe. Il s'agit de faire du lien dans une société. Ces gestes existent dans toutes les sociétés car on n'est pas tout seul.
Merci, Charles. Maintenant, on passe à Antoinette.
Ce qui m'intéresse, c'est la différence entre la culture en France et en Jamaïque. Premièrement, la façon de manger en France est vraiment plus structurée qu'en Jamaïque. Les cours passent dans un ordre particulier et il n'y a pas d'écart. Mais ce n'est pas le cas en Jamaïque, où les cours ni les heures sont structurés. En France, comme manger, la vie quotidienne est également organisée. Par exemple, si j'ai un rendez-vous à 20h, je peux facilement trouver la ligne et les heures en ligne, ou même à l'arrêt de bus, où les heures sont toujours affichées. J'ai aussi remarqué que s'il y a une perturbation de la ligne, il y a toujours un moyen d'avoir cette information à l'avance. D'une part, cette organisation encourage la ponctualité et la structure, qui sont deux choses que j'ai vraiment appréciées ici, en France. Mais d'autre part, cela peut être très stressant. S'organiser à ce niveau peut voler à une personne la possibilité d'être spontanée. Et la spontanéité, c'est un phénomène que je n'ai pas encore trouvé en France. Il y aura toujours une différence de culture et je pense que ça va toujours être un choc pour moi, mais si comme moi, vous êtes né dans un pays complètement différent de celui où vous êtes, alors chaque surprise sera une nouvelle aventure et un nouveau niveau d'appréciation.
Et Laetitia, quel est ton avis ?
Merci. Il y a des différences dans toutes les cultures. En parlant de culture, je pense à l'exemple de la France et de mon pays, le Congo. Dans mon pays, les enfants passent plus le temps à l'école qu'en France. Ici, les enfants ont plus de vacances qu'au Congo. Autre différence de culture, quand une personne âgée parle à une personne moins âgée, la personne jeune doit baisser la tête pour montrer son respect et non fixer le regard. Et pourtant ici en France, quand une personne âgée te parle, tu dois le fixer les yeux. Sinon, elle va penser que tu caches quelque chose. C'est une différence de culture qu'il faut comprendre. Il faut reconnaître la culture des autres pour bien progresser. Autre différence très étrange, en France, les personnes qui gardent des animaux les traitent comme des humains. Mais ici, c'est comme si c'était leur enfant. Moi, j'aime les animaux, mais ici en France, c'est vraiment trop. Un Français se sent vraiment attaché à son chien. Il le garde à la maison, il le préfère à un humain.
Ok, merci à tous. Ensuite, nous allons parler de la francophonie avec Chang et son histoire de coco de chant.
Merci Chang. Je vais vous parler un peu de mon opinion de la francophonie. Auparavant, je pense que la francophonie ne concerne que les Français. Mais après, les intervenants que nous avons vus dans le cadre du projet « Honte du vivre ensemble », j'ai appris des choses au sujet de la francophonie. La francophonie, ce sont tous les pays et les gens qui parlent le français. Maintenant, je vous présente la journée internationale de la francophonie. Sylvie Mainvielle, qui travaille à la TRAC, la Direction régionale des affaires culturelles en Aquitaine, nous a parlé de la semaine de la langue française et de la francophonie. Ça se passe le 20 mars chaque année. C'est un rendez-vous des amoureux des mots en France comme à l'étranger. C'est une occasion de manifester son attachement à la langue française. On célébrant sa richesse et sa diversité. On fait partager son goût des mots et du français en organisant une dictée, concours, un spectacle, un tournoi de slam ou un atelier. Et en Chine, on a aussi le concours de la chanson française qui a lieu le 7 villes dont Pékin, Shanghai, Canton, Wuhan, Chengdu, Shenyang ou Hong Kong. C'est une partie de la fête de la culture française qui se passe dans le monde entier. À ce moment-là, le finaliste du concours de chant est récompensé avec un prix exceptionnel. Il gagne un billet d'avion aller-retour en France et une participation au festival d'avion en France. Maintenant, je vous passe une chanson qui vient du concours de la chanson française 2009 à Canton.
Entre nous, c'est l'histoire qui commence au hasard de nos yeux qui se cherchent. Entre nous, de nos bras, c'est le temps qui donnera un premier rendez-vous entre nous. Entre nous, c'est le temps qui s'enfuit, qui s'en fout. C'est la vie qui nous prend dans son pouls. C'est le cœur qui avoue entre nous. Entre nous, c'est l'aveu qui nous brûle.
Merci Sean pour ta chanson. Et Siaka, tu veux nous partager quelque chose?
Oui, la francophonie. La francophonie, en fait, la francophonie joue un très grand rôle dans la société ivoirienne. Dans un pays qui regroupe 70 ethnies et langues différentes, c'est le français qui nous permet de communiquer entre nous. En Côte d'Ivoire, on trouve une autre manière de communiquer dans la rue. La langue française est mélangée de nos langues différentes, locales. Et on se comprend bien avec ça. Cette langue s'appelle le Nusi, une langue métisse. En Côte d'Ivoire, à partir de 5 à 6 ans, on commence à parler le français à l'école. Mais tu peux l'apprendre aussi dans la rue. C'est la langue la plus parlée. À l'école, il est strictement interdit de parler de différentes langues, nos différentes langues. Comme c'était le cas en France avec la langue régionale, avant la réunification.
Ok. Merci Siaka. Enfin, Raymond, qu'est-ce que tu en penses?
En fait, la francophonie a aussi été très importante au Chili. Car la langue et la culture française ont marqué l'histoire démocratique chilienne. Car à partir de 1789, avec toutes ces idées révolutionnaires et démocratiques amenées par la Révolution française, les concepts de liberté et de souveraineté nationale on peut être appliqué au Chili, ce qui a contribué à avoir notre indépendance. Nous, vous ne le savez peut-être pas, mais c'est grâce à Napoléon Ier que l'on a pu se libérer du roi d'Espagne. De même, les savoirs français ont été très appréciés par la bourgeoisie chilienne. De ce fait, un certain nombre d'étudiants sont venus sur le vieux continent, mais c'était limité aux plus riches. Ces concepts de vie et ces systèmes institutionnels français ont participé à la formation ou à la sauvegarde de la démocratie. Par exemple, le 11 septembre 2013, il y a lieu la 40e commémoration du coup d'État mené pour le général Pinochet au Chili, qui quelques jours avant avait juré loyauté au président Allende. Il s'était imposé comme nouveau chef d'État, en faisant régner la peur, la terreur, la répression et la torture pendant 17 ans. C'est une date où les exilés, les réfugiés, les anciens prisonniers politiques, les anciens et les nouveaux militants des droits de l'homme et les organisations et associations chiliennes en France auront une certaine amargure, c'est-à-dire amertume, du fait que tous ces massacres commis, mais ces sentiments est mélangé avec le réconfort que ce soit fini et l'espoir que cela ne se répétera plus, car la démocratie est revenue. C'est en 1970 que l'Unité populaire, le parti d'Allende, a rapporté l'élection présidentielle avec une étroite avance sur ses concurrents, ce qui a converti le Chili à être le premier gouvernement socialiste démocratique, élu par suffrage universel direct de Salvador Allende. Le président Allende a instauré les 40 mesures, dû la nationalisation de nombreuses entreprises, dont 9 banques sur 10, et des mines de cuivre qui représentent les 3/4 des exportations. La politique économique est devenue socialiste, en amenant une réforme agraire. Également, la sécurité sociale s'est attendue et le divorce s'est légalisé. Au Chili, se vivait une révolution réellement démocratique. Cependant, en 1973, le dictateur Pinochet a pris le pouvoir, aidé par les États-Unis et la CIA. De nombreux professeurs universitaires, des étudiants, des fonctionnaires publics, des membres des partis politiques de gauche et des personnes en faveur pour la démocratie étaient cherchés, amenés au camp de concentration, torturés sans pitié, emprisonnés et tués dans le but de trouver de nouveaux noms des opposants à la dictature. Un grand nombre de savants, des gens, des sympathisants des Roches ont trouvé un lieu d'accueil ici en France. Ils ont été pris en charge par l'État français pendant le temps nécessaire de s'adapter à cette nouvelle culture et améliorer ou apprendre le français. De ce fait, que j'ai eu l'opportunité de venir faire mes études en France, l'endroit de l'éther-démocratie, car ma tante, réfugiée politique à l'époque, m'a invité et accueilli comme la France l'a fait avec elle.
Merci Raymond. Merci pour votre avis sur la francophonie. Alors, chères auditrices et auditeurs, avant de continuer les deux parties qui restent, nous faisons une pause musicale. Restez avec nous et à tout de suite.
Dis-leur que le ciel les entend, dis-leur que la chance les attend pour qu'ils rêvent encore. Dis-leur qu'ils n'ont rien fait autant, dis-le aux petits comme aux grands pour qu'ils rêvent plus fort. Si tu descends, dis-leur qu'on n'est pas encore prêt, mais qu'on pense à ça sans arrêt, et que si on revient, ce sera pas la main ou la tête vide. Dis-leur que l'hiver nous apprend qu'il a raison de nous temps en temps, et qu'on ne tiendra peut-être plus longtemps. Dis-leur qu'on arrive, dis-leur que le temps d'eau nous suit, dis-leur qu'on n'est plus qu'à quelque part, et qu'on est par milliers, avec ou sans un pied, des marchands de rêve, des marchands. Un jour ce sera eux les meilleurs pour qu'ils restent dignes. Oh. Dis-leur que demain est à eux, qu'ils fassent à la misère leurs adieux en dépit des signes. Oh, 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 si tu descends, salue le courage de nos femmes, salue la grandeur de leur âme, et tu dirais à nos mères qu'on arrive chasser leur chagrin. Oh, nos pères qu'on attend, qu'ils montent enfin leur grand drapeau blanc, ce qu'ils auraient dû faire depuis longtemps. Oh, 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 dis-leur qu'on arrive, dis-leur que le temps doit nous suivre, dis-leur qu'on n'est plus qu'à quelque part, et qu'on est par milliers, avec ou sans papier, des marchands de rêve.
Alors, on se retrouve pour notre émission On dû vivre ensemble sur le thème de la culture française. Après notre première partie du code social, puis la francophonie, on passe à notre troisième thème, entre notre troisième partie, nous allons parler de la politique d'immigration. Ce qui nous étonne en France, c'est le nombre de cultures mélangées. Alors, Chan, tu as voulu en savoir plus? Tu vas interviewer un professionnel.
Bonjour, monsieur Frédéric. Bonjour.
Bonjour, monsieur Frédéric Assos. Et je vous téléphone aujourd'hui pour vous poser des questions à propos de l'immigration. Vous travaillez dans l'association du soutien aux travailleurs immigrés.
Alors, solidarité, pas soutien.
La solidarité.
C'est la solidarité, c'est pas du soutien. D'accord ?
Oui. D'accord, merci. Et d'abord, qu'est-ce que c'est l'immigration ?
Qu'est-ce que c'est l'immigration ? L'immigration, c'est des gens qui quittent leur pays pour en gagner un autre. Voilà, donc c'est des... Bon, quand on parle d'immigration en France, c'est des gens qui quittent leur pays d'origine pour venir en France travailler et passer la vie.
Et depuis quelle époque y a-t-il d'immigrés en France ?
Ça remonte au calendrier grec. La France a toujours, enfin, quel que soit le pays, de toute manière, les populations ont toujours bougé et bougeront toujours. Donc il y a toujours eu des vagues d'immigration et d'émigration, donc des gens qui arrivent et d'autres qui partent. En fonction de critères économiques, des guerres, d'un certain nombre de phénomènes politico-sociaux qui font que les gens soit quittent un pays, soit arrivent dans un autre, quoi. Mais on peut remonter loin, mais l'immigration n'est pas récente.
D'accord. Et au début, moi, j'ai mal compris le mot immigré. Je croyais que ce sont les étrangers qui s'installent pour leur vie en France. Je suis une étudiante et les gens disent que moi, je suis une immigrée en France. J'étais un peu choquée. Donc, qu'est-ce que c'est la définition exacte de immigrée ?
La définition exacte, je ne sais pas. C'est vrai que communément, les gens appellent immigrés toutes les personnes qui sont étrangères. Alors déjà, ça dépend de qui vous rencontrez. Donc vous êtes considérée en tant qu'étudiante comme une immigrée, ce qui est faux, puisqu'a priori, vous venez seulement faire des études en France et pas forcément pour y passer votre vie. Donc vous êtes que de passage, donc vous n'êtes pas une immigrée au sens propre du terme. Un immigré en général, il gagne un pays et il y reste, il y fait sa vie. Vous êtes que de passage, vous, a priori. Sauf si vous restez, auquel cas vous deviendrez une immigrée.
Ouais. Et pour les Français, ils pensent que l'immigré est un mot péjoratif. Ça pose toujours des problèmes par rapport à l'immigration. Et qu'en pensez-vous ?
Alors bon, le français généralement est pas très ouvert, ça c'est un peu vrai, hein, mais bon, faut pas non plus généraliser. Ceci dit, c'est surtout les hommes politiques divers et variés, et surtout les gens de droite, qui diabolisent l'immigration. En gros, dans toutes les campagnes électorales, présidentielles, municipales, à chaque fois, le sujet de l'immigration revient pour effectivement dire que l'immigration est un problème. Et donc, en général, les gens de droite disent il faut moins d'immigrés, comme ça il y aura moins de problèmes. Et c'est comme ça qu'ils arrivent à récupérer des voix, il n'y a qu'à voir Marine Le Pen. Alors après, c'est une façon de voir les choses. Hein. Moi, je ne vois pas ça du tout de cet œil-là, mais... De manière générale, effectivement, la population française, et plus la crise va se faire sentir, et plus la population deviendra raciste, entre guillemets, parce qu'ils sont pas profondément racistes, mais bon, ils deviennent racistes, effectivement, en considérant que c'est l'étranger qui est la cause de tous les maux.
D'accord. Et moi, j'ai entendu parler des Français âgés qui sont plutôt contre l'immigration. Ils pensent que l'immigré profite de la France et des ressources françaises, et qu'est-ce que vous pensez ?
Alors, bon, je ne sais pas, les personnes âgées, alors, les personnes âgées ont un souvenir qui est un souvenir, colonial, et notamment quand vous entendez, enfin, quand vous parlez de personnes âgées, c'est des personnes qui, à peu près, enfin, qui sont un peu plus âgées que moi, du reste, mais qui ont connu ou entendu parler de la guerre d'Algérie. Alors, la guerre d'Algérie n'est pas cicatrisée ni en Algérie ni en France. Et effectivement, il y a un certain nombre de gens qui considèrent que les immigrés, notamment les Arabes, puisqu'on met tout le monde dans le même sac, dans ces cas-là, sont des vilains et sont pas gentils, etc., etc. Mais on a un peu la même problématique avec les Roms actuellement, qui sont considérés comme des voleurs de poules, quoi, et qui sont pas plus voleurs de poules que toi ou moi. On a eu le même problème avec les Polonais quand ils sont arrivés, avec les Italiens, enfin bon, chaque fois qu'il y a une population nouvelle, entre guillemets, qui débarque en quantité sur en France, de manière générale, il y a un phénomène de rejet. Et bon, mais ce phénomène de rejet est d'autant plus accentué qu'il y a eu quelques difficultés quand même en Algérie, que ce qui a été fait là-bas n'est pas propre, ni d'un côté ni de l'autre. Et donc fatalement, des gens d'un certain âge qui ont vécu ou qui ont entendu parler, enfin leurs parents parler de la guerre d'Algérie, ont un certain ressentiment, pas forcément des plus connus, vis-à-vis de... des Maghrébins, quel que soit, qu'ils soient Tunisiens, Marocains, c'est un arabe, quoi. Mais on a aussi le même problème. Alors là, maintenant, ça a tendance à disparaître, mais des gens qui avaient 30 ans en 1940 peuvent aussi haïr les Allemands, quoi. Y compris maintenant. Tout ça à cause de la guerre. Donc c'est pas très... Enfin, c'est pas très fondé, quoi. C'est, sont des choses qui sont ressenties bien plus que expliquées et légitimées.
D'accord. Et en fait, d'après moi, c'est sensible de parler de ces sujets de immigration foncée, avec la politique qui change, les gens qui font plus attention à ces sujets. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu?
Que les gens font plus attention au sujet de l'immigration?
Ouais.
Ben, enfin, moi, je crois surtout que c'est les hommes politiques qui font qu'on met toujours en avant l'immigration comme un problème. Et je suis pas sûr que les gens y fassent plus attention. Ils gobent un peu tout ce qu'on leur raconte. Mais si on prend les chiffres, par exemple, de l'immigration, elle est stable depuis les années 40. C'est-à-dire qu'il n'y a pas plus d'étrangers aujourd'hui qu'il n'y en avait en 1940, proportionnellement à la population. Hein. Donc là, j'ai un bouquin, on estime à 5 millions le nombre d'étrangers en France sur 63 millions, ce qui est quand même pas grand-chose. Hein. Et sur ces 5 millions, il y en a 2 millions qui sont naturalisés. Donc globalement, il ne reste plus que 3 millions d'étrangers, au sens propre du terme, puisqu'ils n'ont pas la nationalité française. Donc 3 millions d'étrangers sur 63 millions, c'est vraiment peanuts, quoi. Donc on n'a pas... Enfin bon, il n'y a aucune raison de s'inquiéter. Et en plus, le gros argument souvent des racistes, si je puis dire, enfin de ceux qui en tous les cas bon, usent du problème, entre guillemets, de l'immigration, c'est de dire qu'ils vont venir nous voler notre pain, notre travail, nos femmes, notre protection sociale, etc. Or, il est prouvé, et ça a été démontré par des études, que les immigrés cotisent bien plus qu'ils ne récupèrent. Donc, je vois pas où est le problème, quoi, franchement, même au contraire. Donc, l'immigration demeurera un problème tant que les gens... ne resteront pas des enfants dans leur tête, parce qu'à l'école, que tu sois noir vers jaune, il n'y a pas trop de différence, quoi, dans les petites classes. Après, ça se corse, mais dans les petites classes, a priori, les enfants, ils s'amusent et ils s'aiment bien, quoi. Et ils regardent pas forcément la couleur de la peau ou l'origine.
D'accord, merci.
Il faudrait qu'on grandisse avec cet esprit-là, ça serait vachement bien.
D'accord, merci beaucoup, monsieur Assos, de nous expliquer l'immigration. Merci beaucoup.
De rien.
Au revoir.
Au revoir.
Oui, alors je passe la parole à Ramon, qui va nous faire un témoignage d'une professeure immigrée.
Voilà, je voudrais vous présenter à Madame Teresa Salgado.
Bonjour, Madame Salgado.
Oui, bonjour, monsieur. Je suis Madame Salgado. Je vous remercie de me permettre de m'exprimer quand même.
C'est un plaisir pour nous. Aujourd'hui, nous voudrions connaître votre vécu, vos expériences et votre avis sur l'immigration, ou plutôt sur l'accueil que vous avez eu de la part de la France. Tout d'abord, on voudrait savoir quelles étaient les raisons de votre départ de Chili.
Bon, et des raisons, elles sont très claires, très nettes pour moi. La première, c'est la situation politique du pays. Moi, j'étais enseignante à la fac à Valparaiso. Et mon centre de travail a été immédiatement fermé par la dictature parce que c'était une branche de l'université qui formait des travailleurs et qui éduquait des travailleurs. J'étais alphabétisatrice en plus et donc de ces faits-là, je suis restée sans travail immédiatement. Et pendant un bon moment, je n'avais pas droit à trouver un poste dans aucun des services de l'enseignement au Chili. Tout m'était interdit du fait de ma position et idéologique et du fait d'avoir une famille engagée qui avait été directement touchée par la dictature. Voilà les raisons pour lesquelles je suis en France.
D'accord. Donc,
C'est à cause de ça que vous avez eu l'envie de partir au Chili. Comment s'était présentée l'opportunité?
C'est-à-dire que moi, j'ai toujours voulu revenir au pays parce que moi, j'ai pensé que c'était nécessaire de participer au changement. Je supposais que la dictature allait être très courte,
oui.
Qu'elle n'allait durer que quelques mois. Et je me suis trompée complètement parce qu'elle n'a duré plus de 16 ans et les changements souhaités n'ont pas pu s'acquérir. Et d'un côté, j'étais convaincue qu'on aurait pu, moi j'aurais pu rentrer. Les problèmes c'était si j'avais pu survivre. Et en réalité, c'était presque impossible pour moi. J'ai vécu 4 années depuis 73 jusqu'à janvier 77 au Chili dans des conditions extrêmement précaires. Parce que je n'avais pas les droits à travailler dans ce que je savais faire, enseigner.
D'accord. Et comment s'étaient passés les premiers mois ici, dans cette nouvel pays?
Je suis arrivée en France parce que j'avais un frère qui avait été disparu pendant quelques mois et qui avait réussi à s'échapper de la dictature justement à travers l'ambassade de France,
oui.
où il s'est réfugié. Et de ce fait-là, il a réclamé l'autre frère qui était en prison, et ensuite il a réclamé dans le sens qu'il a demandé à la CIMA, de l'organisme international d'aide aux réfugiés et aux migrants, il a demandé de s'occuper de lui et de sa famille. Donc ils ont échangé la peine de prison par l'exil en France. Et moi, j'ai resté là-bas jusqu'à janvier 77. Et mon frère, celui qui était arrivé avant, m'a envoyé un billet. Et je suis partie par le Pérou. Parce que j'avais, heureusement, un passeport latino-américain. Et j'ai pu circuler par le Pérou. Et de Lima, je suis partie à Zurich, en Suisse. Et de Suisse en France, je suis restée dans des conditions assez précaires.
Et quelles étaient vos impressions de cette nouvelle culture, de vous affronter à des gens différents?
C'est-à-dire que la notion de culture, pour moi, ça a été d'abord des barrages idiomatiques. Moi, je lisais en français parce que notre culture chilienne est complètement est remplie des idées provenant de la France. Par exemple, les codes légal, le code napoléonien est appliqué chez moi depuis 1825. Donc nous, en tant que Chiliens, nous avons une culture européenne et qui est très en contradiction avec les personnes qui viennent d'une origine indienne. Et d'un autre côté, le fait de ne pas parler français en arrivant ici m'a produit beaucoup de problèmes au niveau du travail. Je n'avais pas les droits de travailler parce que je n'ai pas voulu prendre la condition de réfugié politique. Et de ce fait-là, j'avais une autorisation provisoire que le gouvernement de M. Mitterrand en 81 a régularisé parce que j'avais fait pas mal de petits boulots, des gardes des enfants, des gardes de personnes âgées, dont la préfecture m'a autorisé à avoir 18 heures de travail par semaine, pas plus. Et grâce à cette régularisation, j'ai obtenu les statuts de migrants et pas des réfugiés politiques. Même d'accord. Si j'avais toutes les valeurs et les conditions pour les remplir,
oui,
des conditions de type familial et de type personnel.
Et dites-nous, depuis tous les temps que vous avez vécu ici en France, est-ce que vous vous sentez intégré dans cette société?
Et la réponse est double, parce qu'intégré, bien sûr, dans le sens que je suis depuis 77, et je ne suis partie au Chili que quelques mois, dans l'ensemble, dans 35 années de vie en France, et que j'ai vécu plus ici que chez moi, et je ne suis allée que 4 fois pour 15 jours au Chili, et par des raisons très concrètes, familiales, d'ordre familial. Ma mère est décédée en France, j'ai dû ramener ses cendres au Chili, et après je suis allée chercher mon père qui était dans un hôpital. Donc Moi, je me suis sentie intégrée dans le sens que la France me donnait une certaine sécurité sanitaire. Ma mère a vécu 16 années en surplus parce que elle était quelqu'un qui était très, très vraiment malade. Et la France l'a donné, donc, l'opportunité d'avoir des soins, chose oui. qu'au Chili n'aurait jamais eu. Et donc, dans ce sens-là, je me sentais reconnaissant, je me sens très reconnaissant de ce pays et qui a sauvé dans ce sens-là aussi la vie de mes frères et qui ont pu échapper de la prison, de la dictature. J'ai eu un frère qui a été terriblement torturé sur les bateaux écoles Esmeralda. Et donc la France l'a attribué les statuts de réfugié à lui et à sa famille et je suis reconnaissante. Mais d'autre part, je sais que je ne suis pas française et au fond de moi, il y a des éléments du Chili et la musique, la langue, l'expression le fait de se réunir ensemble entre les Chiliens. Oui. Ce matin, par exemple, je suis allée dans des funérailles et je me sentais comme chez moi avec les autres compatriotes, même si la plupart sont maintenant des Français, légalement parlant.
Les Chiliens.
Donc il y a cette duplicité. D'autre part, il y a mes enfants qui sont nés en France, qui ont grandi, qui ont été élevés en France. Je me suis mariée en France, donc ce pays m'a donné une certaine stabilité et je le répète, assez reconnaissante. Sans jamais oublier que c'est impossible pour moi d'être française. Dans les petits détails de la langue, surtout, ça se voit. Dans la nourriture aussi, dans les chansons aussi.
Bon, Teresa, on vous remercie beaucoup pour votre témoignage. Et...
À vous aussi et merci de me permettre de parler.
Merci à vous. Bonne journée.
De même, au revoir.
Au revoir.
Alors, nous allons passer la parole à Mel qui a des choses à nous dire sur les grèves. Alors, Mel.
Merci. Depuis que je suis arrivée en France, j'ai eu deux fois de grandes grèves. J'ai été très étonnée de voir qu'il y a des policiers pour aider le défilé de manifestants. Maintenant, je sais qu'en France, tout le monde a le droit de participer à une grève. Ils peuvent faire la grève pour améliorer le salaire ou pour changer leurs conditions de travail, pour lutter contre une loi nouvelle. Mais en Chine, c'est impossible. Ils ne peuvent pas lutter contre le gouvernement. À l'école, les maîtres ont toujours raison. Dans les entreprises, les employés doivent suivre les patrons. À mon avis, la France est un pays de liberté et d'égalité. Tous les gens ont le droit de faire la grève. Ici, mais il y a aussi du négatif. Par exemple, l'année dernière, la compagnie d'aviation a fait la grève et elle a causé bien l'embarras pour les clients. Ok, merci.
Merci pour ton intervention, Mel. Alors, nous allons faire une pause musicale. Today, I don't feel like doing anything. I just wanna lay in my bed. Don't feel like picking up my phone, so leave a message at the tone. 'Cause today I swear I'm not doing anything. I'm gonna kick my feet up, then stare at the fan. Turn the TV on, throw my hand in my pants. Nobody's gonna tell me I can't. Nah, I'll be lounging on the couch, just chilling in my Snuggie. Click to MTV so they can teach me how to Dougie. 'Cause in my castle, I said it,
meet a really nice girl, have some really nice sex, and she's gonna scream out, this is great.
Oh my god, this is great.
Yeah, I might mess around and get my college degree. I bet my old man will be so proud of me. But sorry, pops, you'll just have to wait. Oh.
Nous allons parler de la politique maintenant avec Oulou Hassan qui a des choses à nous dire sur la politique.
Quand l'homme politique travaille pour le peuple, le pays progresse et se développe comme la France, ou les États-Unis, en Allemagne, en Angleterre et Russie. Quand un politicien travaille pour des raisons personnelles, pour gagner de l'argent, le pays ne progresse pas comme au Pakistan, en Inde, en Afghanistan, au Bangladesh, au Irak. Donc les bons politiciens agissent pour obtenir un respect personnel quand leur pays est en crise et demande de l'aide financière d'un autre pays. Pour vivre, le politicien ne fait pas respecter ce pays. Dans ce pays, des jeunes ne travaillent pas, ne font pas de sport. Beaucoup de jeunes sont malades. Ils réfléchissent juste tout le temps à leur situation. Je pense que les pays développés ont différentes situations politiques, mais sont pays progresse tout le temps.
Alors, je donne la parole à Mel qui va nous parler des congés payés, les vacances.
Ok, Mel. Merci. Et d'abord, je veux parler du taux de vacances pour les élèves en France. En Chine, les élèves ont deux périodes de vacances, l'été et l'hiver. Les vacances d'été commencent en juin jusqu'à août. Les vacances d'hiver sont plus courtes, un mois seulement en décembre. Quand on fait ses études, on doit travailler de 7h à 18h, sauf le dimanche. Quand on entre au lycée, on doit aller à l'école le soir aussi. Et après on travaille, la loi dit on peut travailler de 9h à 17h seulement. Mais en général, plus de travailleurs doivent travailler le soir et le samedi aussi. Par contre, en France, si je veux acheter des aliments, je trouve que tous les supermarchés fermés le week-end. Ici, vous avez des vacances l'été, au printemps et en hiver. Et après, je suis arrivée en France quand ma mère me téléphone. Pourquoi tu n'es pas à l'école? Je lui réponds parce que je suis en vacances. Ma mère trouve ça très bizarre. Pourquoi tu es toujours en vacances? Et je ne sais pas comment expliquer. Peut-être en France, il y a plus de temps pour les vacances que pour le travail. Quelques jours avant, j'ai eu dans le journal que le gouvernement a dit qu'il a besoin de réduire les vacances pour apprendre et travailler plus, mais la plupart des gens sont contre. En Chine, l'horaire des autobus et des trains ne change pas, mais en France, si je veux sortir en week-end, je dois attendre longtemps pour prendre l'autobus. Pour moi, je n'aime pas la façon de travailler en Chine parce que plus de gens sentent une grande pression. S'ils ne travaillent beaucoup, ils vont peut-être être congédiés. Donc, les employés n'ont pas de temps pour se relâcher, mais en contraire, à mon avis, il y a trop de vacances pour les élèves en France parce que les jeunes ont besoin d'apprendre beaucoup. Et après, je vais parler des congés payés pour les travailleurs. Les congés payés, ce sont les vacances, mais en même temps, ils obtiennent aussi les salaires. En France, les congés payés ont commencé le 3 mai 1936. Tous les travailleurs en France ont 35 jours de congés payés maintenant. Avant 1936, les Français devaient travailler plus de 40 heures par semaine, mais aujourd'hui, le temps pour travailler est de 35 heures par semaine et ne travaille pas forcément en dehors. Mais en Chine, beaucoup de gens travaillent souvent le week-end et les soirs. Et en Chine, les congés payés sont de 5 à 15 jours seulement chaque année et il n'y a pas de salaire minimum légal. Bien qu'en Chine, on a loi depuis 1994 pour protéger les employés, le droit de grève n'est pas protégé par la loi. À mon avis, les congés payés sont très bien parce que les employés se reposent bien et ils peuvent travailler mieux et après, ils ne sentent pas le travail est dur et énervant. Ok, c'est bon.
Merci, Emel. Je donne la parole à Laetitia qui va continuer l'émission.
Alors, Laetitia. Merci. Après avoir écouté les interventions sur les codes sociaux, la francophonie, la migration et politique, nous écoutons la littérature et protection de la culture. Will.
Bonjour à tout le monde. Merci aux auditeurs, auditrices d'avoir nous écoutent. Donc j'aimerais vous parler de la littérature française, car je trouve que à l'étranger nous percevons la littérature française comme étant romantique. Peut-être est-ce lié à la langue française, mais je trouve que cette perception était réductrice. Si nous revenons en arrière, à partir de la Révolution française de 1789, la langue française est devenue accessible à un plus grand nombre. Et grâce aux lois de Jules Ferry pendant la Troisième République, la langue française est devenue obligatoire dans les écoles publiques. Toutes les autres langues ont été interdites. Par la suite, la langue française a pris le dessus. Et donc, de nombreux auteurs nés de cette génération ont pu faire évoluer la langue, la littérature française. Par exemple, pour Sartre, qui est le symbole de l'engagement de l'écrivain, il affirme qu'un texte n'est jamais neutre par rapport à l'époque où il est écrit. Sauf la poésie qui traite des mots comme la peinture qui fait des couleurs. Et prenons un autre exemple, par exemple, Émile Zola. Émile Zola décrit la société du XXe siècle à travers de ses romans. Donc nous avons l'impression de vivre, de se fondre dans cette société lorsqu'on lit ses romans. La littérature est donc pour moi le miroir qui reflète une société à un moment donné. Un autre exemple. Au XIXe siècle, Victor Hugo a dénoncé la face cachée et dérangeante de la peine de mort avec le roman « Le dernier jour d'un condamné » ou bien l'article presse qui s'intitule « J'accuse d'Émile Zola » encore une fois. qui dénonce l'antisémitisme pendant l'affaire Dreyfus. Et donc la littérature a un lien très fort avec la politique, des fois pour la dénoncer de manière implicite, mais quelquefois de manière explicite. Voilà, merci beaucoup.
Et nous allons écouter Chef Katz qui va nous parler de la drague.
Chaque pays a une culture différente et aussi la France a une culture différente du Pakistan. La France a une belle organisation culturelle, la DRAC, la Direction Régionale des Affaires Culturelles, créée en 1977 en Aquitaine. Elle fait du bon travail, son objectif est de créer l'événement autour de la culture et de la langue française. Elle fait faire connaissance aux gens avec l'histoire.
Merci. Nous allons passer la parole à Tiang qui va nous parler de la protection de la culture.
Merci. La mondialisation menace la variété des cultures de chaque pays, ce qui demande protection. Mais d'abord, on doit comprendre c'est quoi une culture. La définition de la culture est très large et différente pour chaque personne. Pour moi, la culture, c'est peut-être la langue, les spécialités, les habits, les coutumes, les habitudes dans la vie quotidienne. Peut-être aussi la danse, la musique, les monuments, les patrimoines, ou ce sont les œuvres d'œuvre, de la littérature, de l'art, du théâtre et leurs auteurs. Elle existe depuis très longtemps, depuis que l'homme apparaît sur la terre, et avec le temps, il crée, utilise et règle de la culture jusqu'à maintenant. Mais en raison de la distance, les gens de chaque région ont une culture différente. De cette façon, on a une variation de la culture dans le monde entier. Pour un pays, la culture est très nécessaire et considérée comme un caractère identifiant de chaque pays. C'est pourquoi les hommes y protègent de toute façon la culture de leur pays. Ils créent des organisations avec plusieurs missions par secteur. En France, c'est le ministère de la Culture et de la Communication qui gère généralement les activités pour la protection de la culture. Par ailleurs, il y a beaucoup aussi d'autres organisations comme la DRAC, Direction des Affaires Culturelles, qui est un service de l'État en région, etc. Mais leurs missions communes sont toujours encourager la création littérature, encourager la création littéraire et artistique, en conserver et mettre en valeur le patrimoine, le musée et l'architecture, soutenir le cinéma et l'économie du livre, de la musique enregistrée, de la presse écrite et de la production audiovisuelle, soutenir les archéologues, les photographes et les architectes. Donc, plein d'activités étant créées, la culture française restera parallèlement à la culture mondiale pour toujours.
Ok, on passe à l'interview. Merci à tous de nous avoir suivis. On se revoit la prochaine. N'hésitez pas à suivre l'audio radio. Merci. Au revoir.
Tabiat.
Tadien.
Au revoir.
Ah, super.